Il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa. Il est en studio, micro ouvert. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Jeanne Bartoli, bonjour à tous.
À la une de votre journal, les Nations Unies qui alertent sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo.
Dans les camps de déplacés de l'Ituri et du Nord Kivu, notamment, le Haut Commissariat estime désormais à plus de 6 millions le nombre de personnes qui ont fui leur domicile. L'ONU appelle les parties en conflit à respecter le caractère humanitaire de ces sites. Les autorités rwandaises vigilantes face à la propagation de la fièvre de Marbourg, déjà 6 personnes décédées de cette maladie de la même famille qu'Ebola. Au Cameroun, quelle stratégie pour l'opposition à quelques mois de la présidentielle? Elle semble floue, alors qu'une coalition d'une vingtaine de partis envoie l'avocat Akere Muna pour le scrutin. Et puis à suivre également, une compagnie mobile pointée du doigt dans la tentative d'assassinat de Tundu Lissou en Tanzanie en 2017. Et puis le recours judiciaire d'un Kenyan de 78 ans. Il demande la reconnaissance de la polygamie pour les chrétiens. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, au cœur d'une conférence de presse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'était à Goma hier samedi, et Ruvendrini Menigdiwela Promoda, haute commissaire assistante en charge de la protection, a appelé les différentes parties à respecter le caractère humanitaire des sites de déplacés, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Pour les chiffres officiels que nous on a, c'est 6,4 millions de déplacés internes. J'ai eu l'occasion de visiter les sites déplacés et à l'Ituri et ici aussi au Nord Kivu. Les choses qui m'ont frappé, c'est bien sûr qu'ils vivent une situation très difficile en ce moment. Et comme vous savez tous, il y a eu un incident jeudi matin. Il y a au moins 3 déplacés internes qui ont été tués à la suite de cet incident à Nshagala. Et l'incident justement jeudi matin a démontré très clairement que les sites sont... Enfin, il y a des infiltrations des éléments armés dans ces camps qui nous inquiètent énormément. À toutes les parties qui sont impliquées dans ces conflits, c'est de respecter le caractère civil et humanitaire des sites des déplacés.
Les propos de Ruvendrini Menigdiwela Promoda du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, recueillis par notre correspondant à Goma, Héritier Baraka. La RDC, où Denise Mukendi, cette influenceuse pro-pouvoir, a été interpellé cette semaine à Brazzaville avant d'être extradé dans son pays d'origine, puis présenté au procureur de Kinshasa vendredi. Denise Mukendi avait reconnu sur les réseaux sociaux avoir ordonné l'arrestation, mais aussi le viol de l'opposant Jacques Ndala en 2021. Vous entendrez l'avocat de Denise Mukendi dans nos prochaines éditions. Il assure que les propos de sa cliente ont été sortis de leur contexte et appelle les autorités pénitentiaires à prendre en charge sa sécurité alors qu'elle fait l'objet de menaces en ligne. Lui a été transféré à la prison de Makala. Seth Kikuni, opposant congolais, ancien candidat à la présidentielle, il a rejoint la plus grande prison du pays après un mois de détention à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. On lui reproche une incitation à la désobéissance civile et la propagation de faux bruits. Depuis son arrestation, l'opposition dénonce le rétrécissement de l'espace démocratique et le pic de prisonniers politiques et d'opinion. Au Rwanda, à présent, au moins 6 morts et une vingtaine de personnes contaminées par la fièvre de Marbourg, annonce faite par Kigali ce samedi. La majorité des personnes pour l'instant concernées sont des professionnels de santé, précisent les autorités, qui appellent dans le même temps à la vigilance. Les détails de François Mazet.
Au lendemain d'un communiqué officialisant des cas de fièvre de Marbourg dans le pays, le ministre de la Santé a donné un premier bilan dans un message vidéo adressé aux Rwandais. Le docteur Sabin Nsanzimana a fait état de 6 morts et de 20 personnes contaminées actuellement sous traitement, pour la plupart des professionnels de santé. Il a également précisé que des efforts étaient en cours pour retrouver et tester les personnes qui avaient été en contact avec eux. Le virus de Marbourg est une fièvre hémorragique similaire à Ebola. Très mortel, il se transmet par le sang et les fluides corporels et frappe plusieurs organes à la fois. Il tient son nom de la ville allemande où il a pour la première fois été identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes infectés venus d'Ouganda. Il a depuis touché plusieurs pays africains dont la RDC l'an dernier. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a promis que l'OMS soutiendrait le Rwanda.
François Mazet. Au Cameroun, la stratégie floue de l'opposition à quelques mois désormais de la présidentielle, Alors que les principaux acteurs parmi les opposants disent travailler à la désignation d'un candidat unique, une coalition d'une vingtaine d'organisations politiques a annoncé hier à Yaoundé l'investiture par le parti Univers d'Akere Mouna, avocat et personnalité bien connue et réputée de la société civile. Correspondance à Yaoundé de Polycarpe Samba.
Maître Akere Tabeng Mouna tient son investiture. Il sera bien de la course au fauteuil présidentiel en 2025. Il y a un peu plus d'un mois, le parti de l'Alliance libérale qu'il avait sollicité à l'effet d'une investiture lui avait opposé un refus net au prétexte d'un désaccord stratégique et opérationnel. Cette fois est donc la bonne et ce sera avec le parti Univers et ses alliés pour qui Akere Mouna, dont la notoriété s'est construite dans les rangs de la société civile, est le gage de compétence, d'intégrité et de vision dont le Cameroun a besoin pour sa refondation et pour un mandat transitoire non renouvelable, précise Univers. Il y a quelques mois en arrière pourtant, Akere Mouna était l'une des figures de l'ATP, l'Alliance pour la transition politique avec Olivier Bilé ou encore Cabral Libi. La coalition annonçait alors travailler à l'unification de l'opposition en vue de dégager entre ses membres un candidat consensuel pour 2025. Le parti Univers que préside Prosper Koumvondo et son nouveau candidat Akere Mouna vient ainsi de faire défection à cette coalition. Avant Akere Mouna, Cabral Libi du PCRN a lui aussi récemment avancé ses pions dans l'optique de sa propre candidature. Et bien avant encore, Maurice Kamto du MRC avait annoncé la sienne en décembre 2023. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
RFI, l'actualité du continent africain en bref. Teodoro Obiang-Nguema, reçu par Vladimir Poutine cette semaine, le président équato-guinéen était à Moscou pour évoquer les perspectives de développement entre la Russie et son pays, dit-on du côté du Kremlin. Développement qui concerne principalement le domaine des hydrocarbures. Un renforcement du partenariat sécuritaire a également été évoqué par les deux chefs d'État. Voilà plusieurs mois que les deux pays mettent en scène leur rapprochement, à tel point que la Guinée équatoriale se voit bien organiser le sommet Afrique-Russie en 2026. Plus de détails dans nos prochaines éditions et sur RFI.fr. Autre rencontre cette fois en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York depuis le début de la semaine. Entrevue entre chefs de la diplomatie du Bénin et du Niger, alors que les relations sont toujours tendues entre les deux pays depuis notamment le coup d'état du général Abdourahmane Tiani. La rencontre a eu lieu vendredi entre Cheikhoun Bakary Abadji du Bénin et Bakary Yahou Sangaré du Niger. Les discussions ont essentiellement porté sur les prochaines étapes de la décrispation. Des projets de rencontre entre les états-majors des deux pays seraient également sur la table. Et puis toujours en marge de la grande messe onusienne, Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a invité ses voisins sahéliens à un déjeuner de travail. C'était également vendredi. Il a reçu ses homologues des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, mais aussi celui du Tchad. Selon le compte-rendu publié par Rabat, il a été question de suivre la mise en place de, je cite, « l'initiative royale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique », un instrument diplomatique et commercial promu par Rabat au moment où son rival algérien est en froid avec le Mali. En Tanzanie, la tentative d'assassinat de Tundu Lissou de retour à la une de l'actualité. Cette semaine, le numéro 2 du parti d'opposition de Chadema a pointé du doigt la société de télécom Tigo, filiale nationale de la compagnie Millicom. Selon lui, elle aurait joué un rôle lors de cette affaire datant de 2017. Tundu Lissou reproche en effet à l'entreprise d'avoir transmis aux autorités ses données de téléphonie mobile, ce qui aurait facilité cette tentative d'assassinat. Jeudi, Millicom a fermement démenti les accusations du responsable de Chadema. Explication Christina Okello.
La compagnie Millicom affirme qu'elle n'était plus propriétaire de la société Tigo au moment de l'attaque. Le 7 septembre 2017, la voiture de Tundu Lissou a été criblée de balles devant son domicile dans la capitale administrative Dodoma. Touché de 16 balles, il a dû être évacué à l'étranger. Pour l'opposant, cette attaque a été facilitée par un arrangement entre la société Tigo et le gouvernement tanzanien. C'est ce qu'affirme un enquêteur interne de l'entreprise dans un article publié mardi dans le journal The Guardian. Cet ancien policier, Michael Clifford, affirme que Tigo a fourni les données d'appel téléphonique de Tundu Lissou à l'État, permettant ainsi aux autorités de le suivre 24 heures sur 24. Mercredi, lors d'une conférence de presse, l'opposant a annoncé sa volonté de poursuivre Tigo et le gouvernement tanzanien en justice. Objectif, pousser la société des télécommunications à révéler qui, dans le gouvernement tanzanien, a donné l'ordre de le traquer. Personne n'a jamais été poursuivi pour cette attaque. Pourtant, Tundu Lissou l'a toujours attribué à l'ancien régime de John Magufuli.
Explication signée Christina Okello pour Radio France Internationale RFI. 7h40 à Nairobi, au Kenya. Ce recours déposé en justice, c'était hier samedi, par un homme qui demande la reconnaissance de la polygamie pour les chrétiens. Boniface Koimburi Ndura, 78 ans, demande en effet un amendement de la loi sur le mariage. Votée en 2014, elle a légalisé la polygamie dans le pays, un texte qui autorise les unions multiples pour les mariages coutumiers et pour les musulmans, mais pas pour les laïcs, les hindous et les chrétiens. Gaëlle Lalex est à Nairobi pour RFI.
Boniface Koimburi Ndura estime que la loi sur le mariage est inconstitutionnelle, dans la mesure où elle ne s'applique pas de la même manière à tous les citoyens. Il invoque d'autre part la liberté de religion. Selon lui, certains chrétiens considèrent la polygamie légitime puisqu'elle est évoquée dans la Bible. Ce recours pourrait ouvrir un débat houleux au Kenya, pays majoritairement chrétien. Dans une interview donnée en juillet à l'agence d'information chrétienne, l'archevêque Maurice Mwatia Katumba, président de la Conférence kényane des évêques catholiques, a rappelé son engagement ferme dans la lutte contre la polygamie. Lui-même fils d'un père bigame, il affirme vouloir défendre le sacrement du mariage. La monogamie est constamment remise en cause et aujourd'hui on parle du polyamour, commente Audrey Mugeni, féministe, fondatrice de l'organisation Comptez les féminicides au Kenya. La vraie question, c'est comment la loi sur le mariage protège les femmes dans les unions polygames. Dans sa première version, le texte prévoyait la possibilité à la femme, lors de son union, de refuser la polygamie. Cette disposition a été retirée par les parlementaires. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
RFI, Nairobi, 7h41, il est 6h41 ici à Paris.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
Afrique Matin, sur RFI. Nemo en piste.
À suivre sur la radio du Monde, immersion dans une galerie d'Abidjan où sont exposées les œuvres de la photographe éthiopienne Naïda Moulouné. Notre correspondante a assisté à l'accrochage. On parle, comme chaque dimanche également, littérature avec Tirtan Karchanda aujourd'hui. On parle du nouveau roman de l'écrivaine Jennifer Richard. Et puis, en ces temps de Fashion Week à Paris, entretien avec un créateur de mode togolais qui a supervisé